Bonjour, bonsoir et bienvenue dans L'œuvre noire, le podcast de métallurgie qui décrypte les références artistiques et culturelles de vos groupes de métal préférés. Je suis Scalmax et vous commencez désormais à connaître la formule. On va passer une heure ensemble sur un thème et en compagnie de trois groupes. En particulier, cette fois-ci, on va passer une heure avec Angel Witch, avec Adramelech et avec Therion. Voilà. Donc on va voyager évidemment musicalement, j'essaye à chaque fois de varier un petit peu les genres, de parler de différentes choses, et on va voyager tout court, même cette fois-ci, puisque on va partir à la recherche de continents disparus, de continents mythiques, qui peut-être ressurgiront demain de très fond des océans, on ne sait pas. Donc un thème qui s'annonce vaste, encore une fois motivé par une curiosité personnelle, hein, comme d'habitude. En général, je vais chercher dans les directions qui m'intéressent ou qui m'intriguent, ou alors ça peut être tout simplement du hasard. C'était un peu le cas ici. Pourquoi ? Parce que j'ai lu récemment et j'ai beaucoup apprécié le Pendule de Foucault, qui est vraiment un bon pavé, mais qui m'a tenu en haleine sur les peut-être 800 pages qu'il doit faire, environ. On est sur un bon 800 pages. Et qui est, en gros, pour résumer, un bouquin qui parle beaucoup de théorie du complot, etc. Et qui a une multitude de références occultes. Il y en a quasiment à chaque page. C'est très très dense comme bouquin. J'espère en reparler, d'ailleurs, dans un format un peu à part que je pense sortir dans l'année. Je sais pas quand, mais un truc un petit peu différent, un petit peu moins écrit peut-être, mais qui peut être sympa, qui sera peut-être pas très long non plus, mais voilà, j'en dis pas plus pour le moment. Et donc ce bouquin, Le Pendule de Foucault, qui contient vraiment beaucoup beaucoup de références à plein de choses, à plein de théories justement sur des choses qui auraient existé, qui peuple un peu notre imaginaire depuis des siècles, il revient sur notamment les trois continents dont on va parler au fur et à mesure de cette émission. Donc, plus précisément, de quoi on parle ? On parle de continents ou d'îles disparues, d'îles mythiques. On ne sait pas si ces îles ou ces pays ont un jour existé. C'est en réalité peu probable, on va le voir. Mais c'est forcément hyper intéressant pour évidemment la littérature et bien entendu pour l'art en général, parce que se projeter dans un continent disparu, ça véhicule, ça charrie tout un imaginaire évidemment. De manière générale, un petit point peut-être sur l'île, l'objet île en tant que, je sais pas, que lieu de littérature, c'est quand même déjà quelque chose qui est intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est un lieu isolé, c'est un lieu en vase clos, et on peut imaginer, d'autant plus si cette île est fictive, on peut imaginer beaucoup de choses qui s'y passent. Par exemple, on peut rapidement parler de choses comme l'île au trésor de Stevenson, où là on va avoir tout un imaginaire autour des pirates qui va se développer. On peut penser à l'utopie de Thomas More, donc le livre qui a donné son nom au genre littéraire lui-même, donc une île où finalement tout serait parfait, tout irait bien, il y aurait un système politique qui serait excellent, les habitants seraient heureux, etc. Donc le nom de cette île, c'est l'Utopie, et donc pareil, c'est une autre création à partir de justement cette idée de découvrir un endroit qui était encore inconnu il y a peu et qui réserve beaucoup de surprises. Ou une autre possibilité qui est excellente, c'est le livre Les Dix Petits Nègres de Agatha Christie, qui se passe sur une île, qui se passe en vase clos, et qui est un excellent livre policier qui m'a fortement marqué. Donc là, encore une fois, on a différents exemples où, par exemple, la littérature est allée chercher dans ces coins perdus au milieu de l'océan et a produit quand même pas mal d'idées intéressantes autour de ça. C'est pas étonnant, étant donné ce que la littérature a produit à partir de ce terreau un peu insulaire autour de l'île, que le métal finalement se réapproprie et aille chercher dans ces imaginaires-là aussi pour écrire ces morceaux. J'ai pas regardé les paroles avant d'en parler, ça me vient là comme ça en parlant, mais ne serait-ce que Judas Priest qui parle de Island of Domination, par exemple. Bon, À voir, peut-être que c'est pertinent, il faudrait que je réécoute le morceau. Mais voilà, cette idée d'île, et plus particulièrement, on va le voir, de continent disparu, c'est quelque chose qui colle très bien avec le métal. On a un côté évidemment mystérieux en plus. Pour les trois cas auxquels on va s'intéresser, on va voir qu'un certain nombre de personnes croient en certaines de ces îles. Il y a une dimension mystique aussi qui va s'en dégager. Je parlais de théorie du complot un peu tout à l'heure avec le pendule de Foucault. On en est franchement pas loin par moment. Donc, il y a aussi tout ce côté voilà caché, mystérieux, occulte forcément, qui résonne tout à fait avec le métal. Voilà, après ce point, disons, assez rapide sur pourquoi est-ce que ça pourrait coller finalement entre le métal et cette thématique, on va tout de suite attaquer dans le dur, on va aller, comme je l'ai dit, on va parler de heavy metal pour démarrer, on va parler de Angel Witch, donc un groupe de New Wave of British Heavy Metal qui s'est intéressé au premier continent dont nous allons parler, qui est l'Atlantide. Donc l'Atlantide, forcément, ça évoque tout un tas d'images. Tout le monde a un petit peu entendu parler de l'Atlantide, d'une sorte de cité engloutie. Donc, on va faire un peu le point là-dessus et on va voir comment Angel Witch s'est saisi de ce sujet-là pour en faire un morceau. Et ben, on va remonter au temps de Platon, puisque c'est Platon qui, avec deux de ses textes, notamment, il va introduire et parler de cette civilisation de l'Atlantide. Qui selon lui est une civilisation qui date de 9000 ans avant lui, donc quelque chose de très ancien. On va voir que le passé a un grand rôle à jouer dans cette thématique des continents disparus. L'Atlantide, ce serait le foyer des Atlantes, finalement, une civilisation qui est l'ennemi d'Athènes, donc 9000 ans avant Platon, et qui envahissait un peu tout, qui était une nation plutôt guerrière, et qui avait d'un autre côté un habitat assez particulier, c'est-à-dire que Poséidon, selon Platon, aurait fait deux enceintes de terre et trois enceintes de mer, donc il faut imaginer quelque chose de très concentrique, avec des ressources inépuisables, avec un système politique qui est idéal, qui est gouverné par des rois. On retrouve justement sur l'Atlantide des ports, des palais, etc. Donc on parlait de l'utopie un petit peu plus tôt en introduction, on n'est pas loin de ça hein, finalement, d'une île qui est autosuffisante, qui est prête à dominer le monde quasiment. Le problème, c'est que ces Atlantes justement sont un petit peu orgueilleux, et on a vu à plusieurs reprises que être orgueilleux, vouloir se mesurer aux dieux, en général ça tourne mal, et il se trouve que Zeus prévoit notamment un châtiment pour ces Atlantes, et donc fait disparaître tout simplement leur civilisation. Comment est-ce qu'on peut relier ça au contexte de Platon, si on en parle très rapidement? En fait, c'est une critique d'Athènes à l'époque du philosophe. Une Athènes qui se voyait également toute puissante. Et donc voilà, c'est peut-être une sorte de leçon que Platon veut donner aux Athéniens, parce qu'il faut éviter de tomber dans l'hubris, donc disons l'orgueil total, la sensation de toute puissance, etc. Une dernière chose à propos de Platon, c'est qu'il décrit l'Atlantide comme une réalité historique et non comme un mythe, ce qui pose une première pierre sur cette idée que l'Atlantide aurait pu exister, qu'elle est une réalité et qu'elle aurait sombré dans au fin fond de la mer. L'Atlantide, du coup, c'est un mythe qui va continuer à la Renaissance. Pourquoi? Parce qu'on va redécouvrir les textes anciens et notamment ceux de Platon. Et en plus, on est dans un contexte de grande découverte. On a découvert l'Amérique, on a découvert le Canada. Voilà, tout ça, c'est quand même incroyable, j'imagine, pour l'époque. Et forcément, quand on tombe sur un texte dans un contexte pareil où on nous dit il existe un continent qui est aujourd'hui englouti, on finit par y croire. La seule difficulté, c'est de localiser l'Atlantide, de savoir où elle se trouve. Là-dessus, il y a différentes théories qui s'affrontent. L'Atlantide, il est compris, en tout cas par certains à la Renaissance, comme un pont entre l'Europe et l'Amérique. Parce qu'entre les deux, il y a l'océan Atlantique. Mais d'autres pensent que l'Atlantide peut être aussi le Nouveau Monde, l'Amérique, et que les autochtones qu'on trouverait là-bas seraient les survivants du désastre, seraient ceux qui auraient réchappé finalement de la colère de Zeus. Donc la Renaissance se passe, mais on ne trouve toujours pas l'Atlantide, et on se rend compte que les recherches deviennent quand même de plus en plus difficiles, tout simplement parce que les gens qui recherchent cette terre n'arrive pas à s'accorder sur sa localisation. C'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle, certains situent l'Atlantide en Afrique, certains autres dans les Bermudes. Donc ça aide pas forcément à rendre la théorie crédible, et ça aide pas forcément à faire des recherches concluantes non plus. Mais pour autant, le mythe va perdurer et va arriver jusqu'à pas très loin de nous, puisque au XXe siècle, il se trouve qu'on découvre qu'une éruption aurait touché le site de Théra, donc qui se trouve en Grèce, sur l'île de Santorin, et que cette éruption aurait causé la disparition de l'Atlantide. Donc l'Atlantide serait finalement, dans la Méditerranée, serait pas si loin que ça de la Grèce, puisqu'on retrouve une ville qui a été effectivement victime d'une éruption. Cette ville, c'est Marinathos. Et donc en 1972, le New York Times va titrer « Le mystère de l'Atlantide est résolu ». Donc 1972, je rappelle que Angel Witch, groupe de New Wave of British Heavy Metal, sort son album où ils vont évoquer l'Atlantide justement en 1980, donc c'est pas si longtemps après. Et donc c'est le New York Times, donc qui est quand même assez un journal assez sérieux, titre ça, mais malheureusement c'est une théorie qui est réfutée quelques temps après, puisque l'éruption du volcan ne coïncide pas avec la disparition de la civilisation minoenne, donc qui est celle qui se trouvait à l'époque. Il y a une question de temporalité qui ne fonctionne pas, qui fait que cette éruption n'est pas à l'origine de la disparition de l'Atlantide. Mais Angel Witch en a peut-être entendu parler à un moment ou un autre, et s'en est sûrement inspiré. Enfin, pour terminer sur l'historique peut-être de l'Atlantide et passer ensuite à la musique, on va être obligé, à un moment ou un autre, de discuter d'un sujet qui fâche, et ça vaut pour quasiment tous les... Enfin, quasiment pour tous les sujets de l'épisode. Pourquoi? Parce que l'Atlantide, c'est quelque chose qui a été récupéré aussi par les idéologies racistes et nazies de l'Allemagne des années 20 et 30, puisque le nazisme avait aussi des racines occultes, on va dire plus ou moins mythologiques. Il y avait une sorte de gloubi-boulga de croyances qui servait évidemment à promouvoir l'arianisme, la race blanche, etc. Et donc il se trouve que l'Atlantide, et on verra que c'est le cas d'autres continents, a été un temps imaginé comme étant le lieu de naissance des Aryens, selon cette espèce d'ésotérisme nazi. Et donc pour eux, forcément, l'Atlantide, il se trouve au nord, au nord du monde. Et donc les êtres dont ils prétendent, les êtres parfaits dont ils prétendent descendre, viendrait de cette Atlantide. Pourquoi est-ce que ça place dans l'ésotérisme nazi, dans ce genre de théorie? Parce que tout ça, on en a parlé, ça évoque une idée d'âge d'or, de paradis perdu, ça permet d'activer la nostalgie d'un passé révolu, ça permet d'imaginer quelque chose qui était formidable avant et puis qui a été perdu par... Voilà, à cause de l'ennemi, à cause du juif, etc. Donc c'est un récit qui est facile d'activer et d'utiliser dans une perspective raciste et xénophobe. Fort heureusement, ce n'est pas l'Atlantide n'a pas été seulement repris par le régime nazi ou par ses théoriciens. Il a été aussi repris par des artistes tout à fait recommandables comme William Blake par exemple ou Francis Bacon qui se sont inspirés de ce mythe-là. Dans le métal, mine de rien, il y a quand même quelques noms comme Atlantis Chronicles ou Visions of Atlantis qui reprennent tout simplement ce nom-là et cet imaginaire-là. Soen, par exemple, le groupe de métal progressif, a également un album qui s'appelle Atlantis. Et voilà, Angel Witch, on va en discuter. Ils ont un attrait pour l'imaginaire de manière générale. Donc là, on parle de l'album sorti en 1980 qui s'appelle Angel Witch, avec sa pochette bien connue, peinture vraiment sublime signée John Martin. Et donc, sur cet album, donc, qui est. Au passage, plutôt sympathique, hein. Bon, c'est pas, ça vaut pas Iron Maiden à mon sens. Ça reste quand même un des gros noms mine de rien de l'époque de la New Wave of British Heavy Metal. Je connais pas suffisamment leur histoire pour savoir ce qui fait que ça a moins bien marché. Peut-être que le reste, ils ont peut-être eu moins de longévité, je sais pas. Mais toujours est-il que ils ont sur cet album-là, très certainement un attrait pour l'imaginaire, puisqu'ils ont des morceaux qui s'appellent Gorgon, un autre morceau qui s'appelle Baphomet, et un morceau qui s'appelle Atlantis, et donc on va en parler plus précisément. En fait, ce morceau va aller imaginer que l'Atlantide, après des siècles de sommeil, va se réveiller, va ressurgir de l'océan, et que là, disons, les humains vont être risquent fortement d'en payer les conséquences. Dès le deuxième vers de ce morceau, on nous dit « As a volcano erupts, everything crashes to the ground ». Donc ici, on est sur clairement une destruction de la civilisation humaine, donc puisqu'un volcan du coup rentre en éruption et brise tout, écrase tout finalement, puisque l'Atlantide est de retour. Quelques secondes après, on nous parle d'apocalypse, on dit Apocalypse is happening and nobody stands a chance. Donc l'apocalypse est là, elle arrive et personne n'en réchappera, personne n'en survivra finalement. Un peu plus loin, on va même comprendre pourquoi la civilisation humaine a du souci à se faire, puisque les Atlantes, visiblement, sont des êtres surhumains. Donc forcément, ça fait écho à ce dont on parlait un petit peu plus tôt. Aussi bien à l'idée, donc, ça conforte le mythe nazi des Atlantes, civilisation parfaite disparue qu'il s'agirait de retrouver. Mais ça fait écho également à Platon, tout simplement, puisque Platon nous parle des Atlantes comme ceux qui envahissent et qui sont des guerriers impitoyables. Donc Andrew Wish nous dit « The perfect race, the perfect world, to rise from the ocean's depth ». Donc la race parfaite, donc forcément ça fait étrange de lire ça. Mais disons sans doute en comparaison avec les simples humains, on va imaginer que c'est ça va dans ce sens-là. The perfect world, donc le monde parfait qui sort des profondeurs de l'océan. Donc on a cette idée d'être surhumain, d'être qui vont dominer le monde. Pourquoi ? Parce que un tremblement de terre cause cette renaissance de l'Atlantide. On nous dit as an earthquake begins. Et dans le refrain, Angel Reach nous fait quasiment quelque chose d'incantatoire. Il y a une dimension quasi Lovecraftienne dans ce truc-là. Dans le refrain, ils nous disent to wait. For Atlantis to rise, Atlantis to rise. Avec ce côté un peu incantatoire, on a l'impression que le chanteur appelle de ses voeux la montée de l'Atlantide, qu'elle vienne percer la surface des flots et qu'elle détruise tout sur son passage pour finalement terminer toute forme de vie sur Terre. Donc c'est un programme qui est forcément radical, c'est apocalyptique, hein, tout simplement, le groupe ne s'en cache pas. Ça contraste mine de rien avec la musique, mais c'est peut-être à cause du recul qu'on a aujourd'hui sur voilà, en 2023 on se rend pas compte de ce que ça pouvait être, de la violence peut-être que pouvait représenter Angel Witch en 1980, mais c'est vrai que les paroles sont quand même assez violentes et assez evil quand même, quelque chose d'assez cauchemardesque que nous réserve Angel Witch dans ce morceau qu'on va écouter tout de suite d'ailleurs, Angel Witch avec Atlantis. En attendant la résurgence de l'Atlantide, qui n'est pas pour tout de suite, on l'espère, on va changer de destination et on va partir direction un autre continent qui s'appelle Thulé. Thulé, on va encore une fois devoir parler, faire un petit point antiquité, puisque souvent les choses partent de là. C'est un autre continent qui, lui, est évoqué pour la première fois au 4e siècle avant Jésus-Christ, par un explorateur grec, une fois de plus, qui va rédiger un traité nommé De l'Océan. Cet explorateur, c'est Pythéas. Pythéas a rédigé ce traité, mais qui ne nous est parvenu que partiellement. On a simplement des fragments, on a réussi à retrouver simplement une partie de ce qu'il avait rédigé. Pythéas nous raconte son voyage, notamment, donc il est parti de Grèce et il s'est rendu vers la Grande-Bretagne. la Grande-Bretagne, donc à l'époque, on allait vers le nord de l'Europe pour aller chercher des ressources, notamment en or, en étain, en ambre. La Grande-Bretagne, c'était une destination qui était relativement connue à l'époque, mais il a décidé d'aller encore plus au nord que la Grande-Bretagne, et il a atteint une île, justement. Une île qu'il décrit dans son traité, donc de l'océan, qu'il décrit comme avenante, une île où on pouvait cultiver le blé, élever les abeilles, mais au-delà de cette île, donc, il se trouvait une mer coagulée, une sorte de poumon marin qui interdisait d'avancer. Donc ce qu'il faut comprendre avec cette description donc de Thulé, qu'on est arrivé dans le Grand Nord, selon Pythéas en tout cas. Alors on ne sait pas aujourd'hui avec certitude si Thulé correspondrait à l'Islande par exemple, ou à une île norvégienne, mais on se situe à peu près dans ces eaux-là, en termes de distance par rapport à la Grèce notamment, et en termes de froid, puisqu'on va le voir, Thulé ça va être représenté comme la zone la plus au nord pour les Grecs, notamment chez Virgile. Virgile, le poète Virgile va nous parler d'Ultima Thulé, donc la Thulé ultime, la plus loin, il la décrit comme étant la zone la plus septentrionale au monde. Toujours dans cet imaginaire autour du nord, du grand nord, etc., on a un autre terme qui est grec également, qui s'appelle la Borée ou l'Hyperborée. Donc on a Thulé et on a Borée. Borée, en fait, ce serait... donc Thulé, c'est notre île, et Borée, ce serait... les vents du nord pour les Grecs, donc et ceux qui vivraient au-delà de Borée, donc les hyperboréens. En fait, ça vient se confondre un peu avec Thulé, hein, c'est pour ça que je mentionne les deux en même temps. Souvent, ça décrit quand même la même réalité en général. Pour eux, les hyperboréens, ce serait ceux qui vivent au-delà du souffle de Borée, donc de ce vent du nord. Et l'hyperborée, ce serait selon les Grecs, le lieu de naissance d'Apollon. Et les descriptions justement des hyperboréens, donc les habitants de ce continent qui apparemment existerait. Sont antérieures à Pythéas et à son exploration. Donc c'est quand même une idée, une sorte de mythe qui existe depuis un petit moment. Une fois de plus, on a encore cette idée d'un endroit merveilleux. Les hyperboréens feraient notamment de magnifiques sacrifices pour les dieux. Ils s'amuseraient dans des banquets, ils seraient joyeux, etc. Donc on a encore cette idée de paradis perdu, cette idée d'île parfaite qui serait peut-être un peu hors d'atteinte et qui serait peut-être forcément mythique même pour les Grecs eux-mêmes. On va évidemment devoir reparler du nazisme qui s'est approprié ce nom-là de Thulé. Pourquoi ? Parce que voilà, encore une fois, on est sur ces délires autour du nord comme étant voilà la source du peuple aryen, etc. Et donc ce nom qui a été repris par les nazis, il a été donné à une société qui s'appelle la Société de Thulé, qui selon les historiens représente environ 300 personnes en Allemagne dans les années 20-30. C'est un groupe qui s'intéresse bien sûr à un occultisme lié, encore une fois, on l'a dit, hein, cette obsession pour la race blanche. Certains des membres de cette société vont ensuite aider à la fondation du NSDAP, donc le parti nazi par la suite. Et au-delà de ça, Thulé, c'est quelque chose qui a été repris notamment par les néo-nazis après 1945, donc c'est un symbole parmi la quantité de symboles que les nazis ou les néo-nazis se sont appropriés. Donc il faut le voir un petit peu aussi comme une sorte d'alerte, si tant est que vous ayez envie d'écouter un groupe qui commence à parler de Thulé, il faut peut-être se renseigner là-dessus, savoir quelles sont les intentions du groupe. Est-ce qu'on parle simplement d'un groupe qui parle d'une légende, qui a un recul critique quand même par rapport à ça, ou est-ce qu'on parle d'un groupe qui clairement assume une certaine proximité avec les tendinites du bras droit, notamment des groupes de NSBM hein, qui clairement reprennent ce thème-là, mais il y a des groupes qui sont tout à fait respectables par ailleurs, qui utilisent bien sûr cette légende à des fins voilà, tout simplement mythique, imaginaire, etc. Je peux penser à Vader notamment, qui a une introduction qui reprend ce nom de Thulé. Le groupe suédois Paganizer, donc groupe de death metal, un groupe comme Théâtre des Vampires. On peut penser également à Bloodhouse Nord, son premier album s'appelle Ultima Thulé. Et donc, si on regarde au niveau des morceaux, c'est essentiellement des références. À la mythologie nordique, et plus récemment un excellent album de Ruins of Everast qui s'appelle The Thule Grimoires, donc les Grimoires de Thule, qui est un album qui s'intéresse à, pour chaque morceau, à parler d'un endroit qu'on ne peut pas localiser, qui est un peu légendaire, qui est un peu symbole du passé, quasiment de la préhistoire pour certains. Je sais qu'il y a un morceau qui s'appelle Mammoth Police, la cité des mammouths. Enfin voilà, il y a tout un côté très très mystérieux et très très passionnant, je trouve, dans cet album. Enfin, moi, c'est un album qui m'a beaucoup marqué. Et encore une fois, j'en reparlerai. J'ai parlé d'un autre format, donc probablement que je développerai un petit peu plus sur cet album. À cette occasion-là. Tout ça pour dire tout simplement que des groupes qui n'ont pas de vocation ou de prétention à être d'extrême droite, tout simplement, peuvent aussi utiliser le thème de Thulé. Il faut être vigilant, ne serait-ce qu'aller se renseigner un minimum sur Encyclopédia Metallum, peut-être avant d'aller regarder, voir qu'est-ce qu'ils abordent comme thème, avant d'écouter ce qu'ils font. Ça peut valoir le détour. Donc voilà, fin de parenthèse là-dessus. Et donc on va parler de Adramelech, ou Adramelech, je sais pas, avec CH à la fin. S'il y a une apostrophe, on peut peut-être même faire Adramelech, comme ça, à la bretonne. En tout cas, on va parler de ce groupe finlandais, du coup, de death metal, qui revient sur les traces de Thulé. Pour dire un mot d'Adramelech, disons que c'est un groupe de death metal finlandais. Disons que il y a des groupes plus marquants qu'eux, je dirais, en Finlande, comme Demolish par exemple, qui ont un petit peu plus de personnalité, un petit peu plus de pattes. Adramelech est peut-être un petit peu plus dans l'ombre. Il y a des groupes comme Demigod par exemple qui sont un peu plus représentatifs d'un particularisme finlandais, avec des sonorités un peu spéciales, un petit peu tordues. Adramelech, c'est en tout cas pour cet album qui est plus Pure Blood Doom, qui sort fin des années 90. On est sur un death metal old school, mais qui a pas une personnalité très forte, on va pas se mentir, qui reste sympathique, mais voilà, je m'en relèverai pas la nuit non plus. Mais toujours est-il qu'ils ont, en tout cas pour ce thème-là, donc de Thulé, ils ont un morceau qui est intéressant, et qui condamne directement toute forme de fascination, ou qui met tout de suite les choses au clair, ce qui est assez appréciable justement en parlant de ce thème-là. Le morceau démarre avec ce vers-là qui dit nous, Dangerous Element, Insanity Glorified, donc une condamnation directe du nazisme, donc un élément dangereux, la folie est glorifiée, etc. Donc il n'y a pas d'ambiguïté en tout cas de leur côté. Et donc il nous narre à travers ce morceau, finalement on peut voir un parallèle assez évident avec les exactions du Troisième Reich. On nous parle donc un peu plus loin de The Unknown Thule, je sais pas comment on le prononce, Lost Harsh Paradise, donc on nous parle encore une fois de Lost Paradise, donc un paradis perdu, Harsh Paradise malgré tout, donc un paradis dur, impitoyable, etc., qui explique encore une fois cette fascination, hein. On peut faire dire un peu ce qu'on veut à un paradis perdu, tout simplement, notamment si on a de mauvaises intentions. Donc on peut imaginer, voilà, que ce paradis, il a été volé par, il a été corrompu par... un ennemi, par un bouc émissaire sur qui on va s'acharner. Et c'est ce qu'on retrouve dans les vers suivants. On nous parle de Secret Chiefs in Wait for Eugenic Slaughter. Des chefs secrets sont en attente pour commettre un massacre eugénique. Donc c'est en lien avec l'eugénisme. Donc l'eugénisme, si jamais vous ne connaissez pas ce que c'est, l'eugénisme, c'est une pratique qui était utilisée par les nazis pour sélectionner ou au contraire éliminer les gènes qui ne leur plaisaient pas. Comment ça se passait? Ça se faisait sous forme de stérilisation forcée de ceux qu'ils considéraient comme inférieurs, et à contrario, ça se manifestait par un avortement interdit pour les femmes allemandes, pour que, bien entendu, puisqu'elles étaient considérées comme des ventres, elles puissent reproduire la race allemande germanique, et que le pays ait une population qu'il contrôle. À la toute fin du morceau, on nous dit « Ancient prophecies fulfilled by scapegoat extermination », donc « Ancient prophecy fulfilled », l'ancienne prophétie est réalisée par l'extermination du bouc émissaire, donc le bouc émissaire, bien entendu. On sait très bien que ce sont les juifs et puis de toute façon tous ceux qui ne convenaient pas au régime nazi, bien entendu. Donc ce morceau, et il faut le voir comme une condamnation, bien entendu, des atrocités qui ont été commises à cette époque là et comme une narration, de ce que serait justement ce mythe de Thulé aux mains des nazis. Donc ici, c'est encore une fois un contexte assez cauchemardesque pour ce morceau. Donc on va s'écouter un petit peu de death metal avec ce titre de Adramelech dédié à la terrible Thulé. Pour achever notre voyage, on va aller dans des eaux plus chaudes. On part direction la Lémurie en compagnie de Therion, et donc on va plutôt faire cap au sud vers l'océan Indien notamment. Alors la Lémurie, qu'est-ce que c'est que ce continent? On va en parler plus en détail. Déjà le nom peut-être vous interpeller, parce que évidemment Lémurie, ça évoque le lémurien, le singe. Mais c'est pas un hasard. Cette théorie de la Lémurie, en fait, elle est plus récente que les deux autres continents dont on a pu parler jusque-là. En fait, ça parle d'une intuition plutôt scientifique à la base. En 1864, on a un zoologiste qui s'appelle Philip Sclater qui s'intéresse aux lémuriens, justement. Il se rend compte qu'il y a 30 espèces de lémuriens différentes à Madagascar, qu'il y en a environ 11 ou 12 en Afrique, et qu'il y en a 3 en Inde. Et donc pour lui, cette répartition un peu étrange du nombre de lémuriens, ça s'explique de cette façon. En fait, les lémuriens viendraient de Madagascar et visiblement, ils seraient arrivés jusqu'en Inde et jusqu'en Afrique par un continent qui, aujourd'hui, serait englouti et qu'il nomme lui-même la Lémurie, tout simplement. Donc ce serait une sorte de bande de terre qui aurait relié le sud de l'Inde, l'Afrique, et qui aurait permis, il y a des milliers d'années, d'avoir des lémuriens qui se séparent en plusieurs groupes et qui vont se reproduire en Asie et en Afrique. Toujours au 19e siècle, 4 ans après cette première théorie autour de la Lémurie, on a cette fois un Allemand, un biologiste qui s'appelle Ernst Haeckel, qui émet l'hypothèse que l'homme descendrait des singes asiatiques. Et donc leur arrivée en Afrique se serait faite plutôt en transitant par la Lémurie. Donc encore une fois, là on est sur une terre qui aiderait à passer d'un continent à l'autre. Et dans une réédition de son livre, il va même jusqu'à inclure une carte où il va faire apparaître ce continent de la Lémurie, donc dans l'océan Indien, et il va le nommer Paradis. Donc on retrouve encore une fois cette notion de paradis perdu. Donc ces théories, elles nous paraissent peut-être un peu étranges aujourd'hui, mais on est au milieu du 19e siècle, et Darwin, avec sa théorie de l'évolution, etc., qui est aujourd'hui communément admise, elle apparaît que justement au milieu du 19e siècle. Donc c'est pas étonnant qu'on ait des choses d'à peu près la même époque qui ne fonctionnent pas, qui nous paraissent un peu absurdes aujourd'hui. Il y avait sans doute un engouement particulier, ou peut-être on était peut-être à une étape de la science où on pouvait commencer à réfléchir sur les origines de l'humanité et avoir des intuitions qui étaient peut-être pas exactement les bonnes, mais qui partaient vers la bonne piste, notamment ces histoires d'hommes qui descendraient des singes asiatiques. Bon, en réalité, il se trouve que c'était ça s'est passé en Afrique, mais on était sur une intuition qui était pas mauvaise à la base. Et donc ce continent de Lémurie, du coup, il va être repris toujours au 19e siècle, qui est un siècle, on l'a dit, de science, mais qui est aussi un siècle où le, disons, l'ésotérisme va avoir sa place, malgré tout, et particulièrement chez Elena Blavatsky. Elena Blavatsky, donc, qui est une occultiste qui a créé la société théosophique, donc qui est une société ésotérique et qui permet, en tout cas, elle prétend pouvoir communiquer cette femme avec d'autres mondes, avec les morts, etc. Et elle publie un livre qui s'appelle La Doctrine secrète, qui a pour but de réconcilier les sagesses orientales et la science moderne. Donc on est sur une sorte de mélange entre les sagesses orientales, en fait, il faut comprendre des croyances plutôt, et la science moderne, bien les découvertes qui étaient faites à l'époque. Et selon Blavatsky, elle veut nous dire que dans l'ère moderne, certains des hommes seraient restés proches du règne animal, notamment certaines tribus en Afrique, et des tribus comme celle des Sémites, qu'elle affirme comme dégénérées du point de vue spirituel. Encore une fois, on est obligé de repasser par ce thème-là. Ce genre de théorie, on sait très bien que ça a donné. Ça a fait le terreau, bien entendu, du nazisme derrière. Et donc, évidemment, les écrits de Blavatsky, au-delà d'être évidemment très très questionnables du point de vue de la science, ont évidemment cette tonalité raciste. Elle établit une hiérarchie entre les races, et elle a, en plus de ça, une conception totalement fantaisiste de l'origine des espèces, de l'origine de l'homme, mais c'est quelque chose qui va forcément infuser à un moment ou à un autre. Le fait que cette Lémurie soit reprise dans un contexte occulte va forcément lui donner une aura qui est pas simplement celle d'une théorie scientifique. Ce continent donc de la Lémurie, il est aussi confondu parfois avec le continent perdu de Mu, donc Mu, M-U, tout simplement. Qui lui est théorisé par James Churchward, donc on est toujours au 19e siècle. Et donc selon James Churchward, donc qui est un occultiste également, enfin en tout cas lui aurait retrouvé des tablettes en Inde et au Mexique qui corroboraient l'existence d'un continent perdu qui lierait donc l'Inde au Mexique. Donc on n'est pas tout à fait dans la même zone géographique que la Lémurie, mais souvent ces deux continents sont un peu interchangeables, un peu ils sont souvent un petit peu mélangés. On va s'en rendre compte avec le morceau de Therion, notamment, qui va être un petit peu sur les deux tableaux. Malgré tout, on a parlé de Thulé, on a parlé de l'Atlantide, qui étaient des choses un peu mythiques et un peu qui probablement soit n'ont jamais existé, ou alors sont finalement des îles comme les autres, en tout cas pour Thulé, si jamais il s'agit de l'Islande, c'est une île comme une autre. Malgré tout, ces dernières années, il y a des études qui ont corroboré l'idée qu'un très ancien continent, Mauritia, aurait lié Madagascar et l'Inde, avant la dérive des continents, donc quelque chose qui est quand même très ancien. Et c'est quelque chose qui est scientifiquement viable, visiblement. Donc cette théorie, en tout cas à la base scientifique, n'était pas une si mauvaise intuition que ça. Après, est-ce que c'est la terre d'origine des Lémuriens? On n'en est pas sûr. Toujours est-il qu'on va parler donc de Therion. Therion, qui est un groupe suédois, pour le coup, donc assez éloigné de l'océan Indien, mais qui s'intéresse à beaucoup de choses, à beaucoup de. Qui s'intéresse à pas mal de thèmes, justement, occultes, ésotériques, etc. Qui est quasiment un groupe qui pourrait être sponsorisé par l'œuvre noire, par ce podcast, parce qu'ils ont énormément de références à plein plein de choses, à l'Atlantide, à Prométhée, etc. Donc des thèmes qu'on a pu aborder déjà. Ça vient sans doute du côté un petit peu sympho, prog, etc. Cette tendance à vouloir raconter des histoires, à vouloir être dans un genre qui est quand même assez narratif. Et donc pour ça, il faut de la matière. C'est intéressant d'aller puiser dans des mythes. Et donc, à un moment donné, Therion, sur son album Lemuria, s'est un petit peu intéressé à ce genre de choses. Pour dire un mot de cet album, donc Lemuria. Alors moi, Therion, le métal purement symphonique, bon, y a d'autres éléments qui vont avec, mais C'est essentiellement comme ça qu'ils sont désignés. J'avoue que j'en écoute pas tous les 4 matins. Cet album en particulier m'a pas déplu. Disons qu'il y a des hauts et des bas. Ils peuvent avoir des trouvailles mélodiques qui sont intéressantes, notamment donc sur The Dream of Swedenborg ou sur Lemuria, même le morceau titre. Je trouve qu'il y a des choses qui sont bien. Mais parfois on est carrément dans l'excès. Je pense au titre Quetzalcoatl, qui est juste après Lemuria, justement dans la tracklist. Là on est limite dans de la fanfare. Ce qui est un petit peu le côté too much de Therion, à mon sens. Mais voilà, c'est pas désagréable, c'est pas indigeste selon moi. En tout cas sur cet album, j'avoue que j'ai un petit peu écouté Therion de temps en temps, mais je suis pas un grand connaisseur de leur carrière. Mais cet album, je dirais que globalement, à part quelques passages un peu too much, je pense à un autre. Un intermède également qui fait 45 secondes, mais qui est un peu. Qui est encore une fois un petit peu too much. Le morceau juste avant Lemuria, pareil, qui est très enjoué, on en met un peu des caisses, on en met un peu partout. Je l'aurais pas gardé à la tracklist, je l'aurais pas gardé dans la tracklist finale, je crois, mais bon. En tout cas, en ce qui concerne le morceau Lemuria, y a des choses intéressantes à aller y chercher. On est sur une exploration globalement des océans, et donc un capitaine serait à la recherche de Land of Mu. Donc Mu, on en a parlé, c'est le continent de Mu. Alors c'est étonnant parce qu'on nous parle le titre s'appelle Lemuria, l'album s'appelle Lemuria, mais on nous parle de Land of Mu dans ce morceau. Comme quoi il y a quand même une certaine confusion entre les deux, les deux ont un peu tendance à se superposer. Et donc on nous dit Captain, did you find Land of Mu, El Dorado for the Seaman? Donc, Capitaine, as-tu trouvé la terre de Mu, l'Eldorado des marins? Donc ici une confusion, une sorte de, sans doute l'influence mexicaine. Encore une fois, le continent de Mu, apparemment, il aurait relié l'Inde au Mexique, donc. Ça, c'est peut-être que Therion va s'inspirer de tout ça, d'autant que le titre suivant s'appelle Quetzalcoatl, donc qui est une référence à la mythologie Inca. Donc forcément le lien avec le Mexique est tout trouvé ici. Plus loin, on nous dit donc When the sailman sailing away, he shows that dream of Lemuria is true, and a land lost he will find again. Donc ici, on nous dit donc quand le marin s'en va, part en mer, il montre que le rêve de la Lémurie est réel. Et donc il s'agit d'une terre perdue qu'il va retrouver. Donc on affirme ici l'existence de ce continent qui est recherché par les marins, qui visiblement est l'Eldorado. Donc en plus, il y aurait peut-être un trésor à y trouver, quelque chose comme ça. Et toujours un peu plus loin, encore une fois, alors cette fois on évoque l'Inde, mais qui est présente à la fois dans le mythe, dans l'idée de la Lémurie et dans Mu. On nous parle de Call of Narayana, The Seven-Headed One, Lemuria Rise. On nous parle de l'appel de Narayana, donc qui est un dieu issu du panthéon hindouiste, qui est associé à l'eau. Donc encore une fois, on est dans l'océan, on est près de l'Inde, on est dans l'océan Indien en train de rechercher un continent perdu. Et une fois de plus, tout comme Angel Witch, Therion est dans l'invocation à faire Lemuria Rise, donc à faire en sorte que le continent, la terre de Lemurie, s'élève et sorte de son caveau englouti. Voilà, donc un morceau qui peut presque s'écouter comme un triptyque, puisque les deux morceaux précédents nous parlent de Ships of Beric, donc on nous parle de bateaux, d'aventures en mer, encore une fois, et donc finalement de recherche, de recherche menée par des marins qui au gré de leur navigation, pourraient peut-être débusquer des cités englouties et les faire réapparaître à la surface de la Terre. Là-dessus, on va plonger dans l'océan Indien pour terminer, c'est quand même pas mal. Avec donc ce morceau de Therion qui s'appelle tout simplement Lemuria. Voilà, j'espère que vous avez pris une bonne lampée de Therion pour terminer avec ce morceau, donc Lemuria. Une petite erreur, je me rends compte, je me suis trompé, le Quetzalcoatl, donc qui est le morceau suivant dont j'ai parlé précédemment, qui a un lien avec le Mexique. Au Mexique, ce sont les Aztèques, pas les Incas. Voilà, je mea culpa à tous les Aztèques qui écoutent. Lo siento, comme on dit chez vous. Là-dessus, on va conclure sur notre histoire, sur notre recherche finalement des continents perdus dans le métal. Donc, un épisode qui j'espère vous aura plu, qui n'était pas évident à faire, je vous cache pas. J'avais pas mal de recherches à faire, pas mal de trucs à démystifier, à essayer de un peu de trouver le vrai du faux, etc. Et puis, mine de rien, c'est des choses où il y a quand même beaucoup de contexte historique, donc j'espère que j'ai rendu la chose à peu près digeste et intéressante. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, bien sûr, dans les commentaires. Si vous avez bien sûr des idées de sujets, ça m'intéresse toujours aussi de voir si on pourrait en faire un épisode. N'hésitez pas à donner votre avis. On se quitte là-dessus. Je vous rappelle que l'émission est disponible sur YouTube, sur la chaîne de Métallurgie. Elle est disponible également en format podcast sur Spotify et sur Deezer. Et puis, on peut se quitter là-dessus. N'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous. Et là-dessus, moi, je vous dis à une prochaine. D'ici là, écoutez des disques et portez-vous bien. Salut !